2h à Paris, minuit en temps universel. Vous êtes bien à l'écoute de la Radio du Monde.
Antoine Galen.
À la une, cette tragédie à Nantes, dans l'ouest de la France. Un jeune homme a tué une lycéenne et blessé trois autres. Une attaque au couteau au sein du collège-lycée privé Notre-Dame de Toutes Aides. Alors quel est le profil du suspect? Élément de réponse à suivre. Dans ce journal également, Israël lancera une offensive plus vaste à Gaza si les otages ne sont pas libérés. Ce jeudi, au moins 55 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza par des frappes israéliennes. Volodymyr Zelensky écourte sa visite en Afrique du Sud pour rentrer à Kiev après de nouvelles attaques russes. 12 morts et plus de 90 blessés dans la nuit de mercredi à jeudi. Le président américain Donald Trump demande à son homologue russe l'arrêt des hostilités. Et puis à Rome, l'afflux des fidèles se poursuit devant la dépouille du pape François. Plus de 90 000 personnes lui ont rendu hommage dans la basilique Saint-Pierre depuis mercredi matin. Vous avez les titres ? Bienvenue. Un drame qui suscite beaucoup de questions. Quel est le profil du suspect qui a tué une lycéenne et blessé trois autres à Nantes, dans l'ouest de la France? Le jeune homme à l'origine d'une attaque au couteau dans le collège-lycée privé Notre-Dame de Toutes Aides ce jeudi a été hospitalisé après un examen psychiatrique. Pendant ce temps, l'enquête continue. On écoute Christophe Mietz, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.
Là, il faut se concentrer sur le profil de l'auteur, qui est âgé de 16 ans, qui est élève en seconde dans cet établissement. S'agit-il d'un différent, comme il a été évoqué? S'agit-il d'autre chose, sachant que cet auteur a envoyé par mail quelques minutes avant à l'ensemble des professeurs et des élèves un mail avec des revendications ou des déclarations d'environ une dizaine de pages. Donc tout ça va être déterminé, savoir le profil de cet auteur qui est interpellé, qui est pour l'instant entre les mains des policiers, il a été placé en garde à vue. Donc c'est les policiers de la police judiciaire qui sont en train d'investiguer pour essayer de déterminer le parcours criminel qui a conduit à cet acte.
Christophe Mietz, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Des propos recueillis par Sylvie Coffi. Le Premier ministre François Bayrou demande une intensification des contrôles mis en place aux abords et au sein des établissements scolaires. Et sous 4 semaines, des propositions concrètes autour des violences commises par des mineurs avec des armes blanches. Direction le Proche-Orient. Ce jeudi, au moins 55 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza par des frappes israéliennes. Israël menace de lancer une offensive plus vaste dans l'enclave si les otages n'étaient pas libérés du territoire palestinien. De son côté, l'Organisation de libération de la Palestine a approuvé la création d'un poste de vice-président, ce qui ouvre la voie à la succession du président palestinien Mahmoud Abbas. L'actualité dans la région, c'est aussi l'Iran qui se dit prêt à se rendre à Berlin, Paris et Londres pour discuter du nucléaire. Téhéran discute avec Washington depuis le 12 avril sous médiation omanaise. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, rencontrera d'ailleurs les Iraniens samedi à Oman, la 3e rencontre en quelques semaines. De leur côté, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni n'ont jusque-là pas été directement impliqués dans les nouvelles tractations. Mais Téhéran aimerait discuter avec les 3 pays européens car ils ont la possibilité de réimposer automatiquement les sanctions de l'ONU contre Téhéran pour les empêcher de se doté de l'arme nucléaire. 12 morts et plus de 90 blessés à Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi. Des bombardements russes qui montrent qu'un cessez-le-feu est encore loin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a écourté sa visite en Afrique du Sud pour rentrer à Kiev. De son côté, le président américain Donald Trump demande à son homologue russe l'arrêt des hostilités avec une certaine modération. Correspondance à Washington de Guillaume Nodin.
Vladimir, arrête, dit le président américain sur son réseau social personnel. Donald Trump écrit qu'il n'est pas content des frappes russes sur la capitale ukrainienne. Il explique qu'elles ne sont pas nécessaires et qu'elles interviennent à un mauvais moment. Et il appelle à faire la paix. 3 lignes, contrairement à sa diatribe de la veille pour accuser le président ukrainien de se vanter à la une du Wall Street Journal du fait qu'il ne reconnaîtra pas légalement l'occupation de la Crimée. Des propos incendiaires qui rendent difficile le règlement de la guerre, dit Donald Trump. Hier, dans le bureau ovale, il disait avoir trouvé un accord avec la Russie, mais pas encore avec l'Ukraine, soulignant que les rapports sont pour lui plus faciles avec Vladimir Poutine qu'avec Volodymyr Zelensky. Une fois de plus, comme il l'avait fait lors de l'humiliation publique du président ukrainien dans le bureau ovale, il souligne que celui-ci n'a pas les cartes en main, autrement dit pas vraiment le choix. Donald Trump se défend de prendre le parti de la Russie, mais plutôt celui des soldats, il ne mentionne pas les civils, qui meurent sur le terrain. Il évalue ce nombre à 5000 par semaine, soit le double de ses précédentes estimations. C'est pour cela qu'il y a urgence, selon lui, qui avait promis de régler la question en 24 heures. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
À Rome, l'afflux des fidèles se poursuit devant la dépouille du pape François. Plus de 90 000 personnes lui ont rendu hommage dans la basilique Saint-Pierre depuis mercredi matin. Une affluence immense et des heures d'attente pour quelques secondes auprès du cercueil papal. Reportage de nos envoyés spéciaux à Rome, Jadel Coury et Daniel Valo.
Je m'appelle Monica, j'habite ici à Rome depuis quelques années.
Et là, vous êtes là depuis quelle heure ?
Je suis depuis 5 heures. Une longue attente, mais avec beaucoup de remerciements pour ce que ce pape a fait pour l'Église.
Dans la foule, des catholiques pratiquants, mais aussi de simples touristes comme cette parisienne que nous rencontrons à la sortie de la basilique.
Il y a un chemin qui est délimité, ils font des barrages pour que les gens, parce que les gens courent, sinon les gens poussent. Donc ils font des barrages et tranquillement on accède au cercueil.
À l'intérieur, il faut aller vite pour se recueillir devant le corps du pape. Melvin est un catholique indien de l'état du Kerala.
Il y avait une barrière, mais on pouvait le voir, on n'était pas loin. Par contre, on ne pouvait pas rester longtemps, peut-être 2 ou 3 secondes.
Les religieux ont eu le droit de rester un peu plus longtemps, quelques minutes devant le cercueil. Sœur Caroline est philippine, elle enseigne la théologie à Rome et ne cache pas son émotion après avoir vu le corps du pape.
C'est tellement triste. C'est comme si nous étions devenus des orphelins, parce que c'était notre père à tous.
Sœur Caroline a prié pour le repos du souverain pontife, mais aussi pour le prochain pape qu'elle espère, nous dit-elle, aussi bon et généreux que le pape François. Jadel Coury, Daniel Valo, Rome, RFI.
Direction la Côte d'Ivoire où le PDCI, principal parti d'opposition, peine à mobiliser après l'exclusion de son candidat. Près de 200 personnes se sont rassemblées à Abidjan ce jeudi pour dénoncer la radiation de la liste électorale de Tidjane Thiam pour la présidentielle d'octobre. La justice déclare que l'ancien banquier a perdu la nationalité en devenant français en 1987. Cette décision n'est pas susceptible de recours et tombe une semaine après l'investiture de Tidjane Thiam pour défendre les couleurs du PDCI. La tension monte entre New Delhi et Islamabad. Les autorités des deux pays ont annoncé que les ressortissants étaient priés de quitter rapidement leur territoire. Et ce, après une attaque contre des touristes dans le Cachemire indien qui a fait au moins 28 morts. C'est l'attentat contre des civils le plus meurtrier en Inde depuis 2008. L'Inde semble pointer du doigt le Pakistan, tandis qu'Islamabad nie toute responsabilité. En colère, des centaines de Pakistanais ont manifesté dans plusieurs villes du pays. Direction le salon Change Now. En ce moment, à Paris, plusieurs initiatives sont présentées pour répondre aux défis sanitaires et environnementaux, comme par exemple celle de rendre l'eau potable. Change Water Labs développe notamment un système de toilettes sèches un peu particulier. Pauline Berger a rencontré Diana Youssef, la présidente de l'entreprise.
Les déjections humaines sont constituées à 95% d'eau. Je travaillais avec la NASA au moment où j'ai eu cette idée et je me demandais comment recycler les eaux usées sur la station spatiale et je me suis dit, ces déchets sont principalement composés d'eau, pourquoi les évacuer avec encore plus d'eau ? Pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas s'évaporer ? Et comment le faire sans recourir à beaucoup d'énergie? Je me suis dit que nous pourrions peut-être utiliser ce qu'on appelle des matériaux respirants pour retirer l'eau liquide des déchets et la convertir en vapeur d'eau. Nous travaillons avec des exploitants d'installations sanitaires ou des entreprises de gestion de l'assainissement chargées de retirer les déchets résiduels des toilettes et d'en faire quelque chose. Ils ont la possibilité de valoriser ces déchets, mais dans certains contextes, ils ont seulement la possibilité de les incinérer ou de les éliminer. Il y a beaucoup moins de déchets à gérer et cela demande beaucoup moins d'efforts et d'énergie. L'autre point positif à propos de notre technologie, c'est qu'en séchant rapidement les déjections, nous empêchons la conversion de ces eaux usées en gaz à effet de serre.
Et puis avant de refermer ce journal du football, demi-finale retour de la Coupe d'Italie, victoire de Bologne contre Empoli, 2-1, ils affronteront l'AC Milan en finale. En Espagne, l'Atlético Madrid gagne 3-0 face au Rayo Vallecano. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. RFI bientôt 2h10, à Paris minuit 10, en temps universel.